Alors maintenant, le frère.
Jean-Yves.
Vous m'entendez?
Oui.
Est-ce qu'on m'entend? C'est bon, le frère Christian vient de commencer son message. Vous êtes prêts?
Oui.
Alors, je traduis?
Volontiers.
Vous m'entendez? L'acoustique est bonne?
Un peu plus fort, ça va?
Le Seigneur, il nous a donné toute la bénédiction spirituelle en nous faisant connaître toute sa volonté selon son bon plaisir. C'est son bon plaisir que nous puissions connaître sa volonté. Si ton grand boss, pas simplement ton supérieur hiérarchique, mais disons le patron de toute la société, te demande de venir à son bureau parce qu'il a quelque chose à te dire. Alors tu te poses pas mal de questions. Qu'est-ce qu'il aura à me dire? Bon, c'est quand même important. Dans les sociétés du monde, on fixe d'importants objectifs aux collaborateurs, mais souvent on ne dispose pas des moyens, on fait des économies partout. Mais hier soir, nous avons vu combien notre Dieu est riche. Il a investi toutes ses richesses en Christ et dans l'esprit, il y a tout un trésor, un entrepôt géant. Et nous avons accès à toutes ces richesses à y puiser pour faire la volonté du Père. Et ces richesses, c'est directement lié avec sa personne, son amour, sa sagesse. Son intelligence, sa sagesse est sans limite, comme on le voit dans un psaume, y compris dans son pardon. Le pardon des péchés comporte tant de richesses, comme Paul le dit dans Éphésiens 1, verset 7. En lui, nous avons le pardon des péchés selon les richesses de sa grâce. Nous avons besoin de son pardon. Ce bon message est tellement riche, comporte tant d'aspects et chaque aspect est important. Nous avons besoin du pardon quotidiennement, mais ça va beaucoup plus loin. Le Seigneur veut faire beaucoup plus. Aujourd'hui, on vient avoir la deuxième colonne de la volonté du Père. Il y en a trois piliers, à savoir le salut, la sanctification et l'édification de son Église. Donc, il y a trois piliers qui sont inséparables. Ces piliers sont directement liés. Nous avons besoin d'être sanctifiés pour l'Évangile, pour que le Seigneur puisse agir en vue de l'édification de l'Église. et pour l'édification de l'Église, la sanctification est indispensable. Lisons 1 Thessaloniciens 4, verset 3. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de la débauche, c'est que chacun de vous sache posséder son corps. Donc, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. On descend d'une marche comparée à hier soir, toutes les richesses que nous avons vues hier soir. Mais sachez que la sanctification est si nécessaire, si importante. Dans Hébreux chapitre 12, 14. Hébreux 12, 14. L'apôtre, il écrit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Recherchez la paix et la sanctification. Sainteté ou sanctification, en fait, c'est le même mot en grec. La sainteté étant le résultat de la sanctification. Donc, il faut rechercher la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Il semble que c'est la condition préalable, et c'est ça, c'est la condition de départ. Pas pour nous, pour peser, pour être pesant sur nous. Dieu est bon pour nous. Il est notre époux. Et un époux, il aime bien voir son épouse. Il veut être vu par elle. Mais il y a certaines choses qu'il ne veut pas voir. C'est comme dans la vie d'un couple. Il y a parfois des choses que le partenaire ne veut pas voir, comme souvent les sœurs n'aiment pas voir les araignées. Pareil avec Dieu, il y a certaines choses que Dieu ne veut pas voir. Si nous sommes souillés, comment pourra-t-il nous regarder? Et nous aussi, nous ne pouvons pas le regarder. Lui qui n'a rien à voir avec le péché, il se retirera. Il y a un verset parallèle, c'est Matthieu 5, verset 8. Matthieu 5, 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Ce verset parallèle nous montre que la sanctification est directement liée avec le cœur. Dieu désire que nous nous sanctifions, que nous grandissions dans la sanctification. Et ceci parce qu'il aime avoir la communion avec lui. C'est si grand, c'est si merveilleux. Nous devons être les interlocuteurs du Seigneur pour avoir des échanges avec lui, avec lui qui veut nous révéler le mystère de sa volonté. Si vous me permettez, on peut regarder dans un passage de l'Ancien Testament, Lévitique 9, c'est dans Lévitique 9, le Seigneur m'a parlé depuis quelques années dans ce livre. Je lis ça systématiquement, c'est pas facile parfois, mais le Seigneur m'a parlé. Ce chapitre est tout inclusif. Alors c'est Lévitique 3, 19, il me semble, versets 1 et 2. L'Éternel parla à Moïse, parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël et tu leur diras, soyez saints, car je suis saint, moi, l'Éternel, votre Dieu. Et Pierre, il cite ce verset dans 1 Pierre chapitre 1. Même deux versets de ce chapitre de Lévitique sont cités dans le Nouveau Testament. Et ça, c'est le premier. Soyez saints, car je suis saint, moi l'Éternel, votre Dieu. La sanctification est intimement liée à la nature de Dieu. C'est la nature de Dieu qui est dispensée en nous. Ça ne veut pas seulement dire d'être sans tache, sans péché dans notre humanité, mais c'est plutôt quelque chose qui a été formé en nous, dispensé en nous. Ensuite, il donne quelques commandements qui c'est en quelque sorte le résumé de ce que Dieu entend par la sanctification. Ces commandements, ces lois révèlent plutôt l'intention sur le cœur de Dieu. Et c'est important de retenir, lorsqu'on parle de la volonté de Dieu, ça se réfère au cœur de Dieu. Il continue, chacun de vous respectera sa mère et son père et observera mes sabbats. Respecter la mère et le père, avoir du respect envers ceux qui nous ont transmis la vie. Mais ce qu'il y a là derrière, c'est de savoir que nous devons tout à notre Père céleste, à lui qui nous a tout préparé, nous a déjà donné notre vie humaine, y compris la possibilité de participer à cette conférence. Et puis il nous a donné toute cette nouvelle vie, les richesses en esprit. Et vous observerez mes sabbats. Ça ne veut pas dire le dimanche, mais ça veut dire de ne pas œuvrer dans la chair, mais de rester dans le repos du Seigneur. Dans la chair, il y a tant de tracas, il n'y a pas de repos, même avec les meilleures intentions. Mais le repos, on le trouve dans le Seigneur. En lui, on jouit du vrai sabbat. Et vous ne vous tournerez point vers les idoles. Comment peut-on élever quelqu'un d'autre dans notre cœur, sauf notre Seigneur qui nous a tant aimés? C'est une offense pour le Seigneur d'élever des idoles. Et ils sont pas, les idoles peuvent rien faire. Cependant, le monde est rempli d'idoles. Beaucoup de personnes ont des idoles. Certains disent même le foot, c'est mon idole, c'est mon Dieu. Pauvres gens, ils n'ont rien du tout. Nous avons le Tout-Puissant, le Dieu qui nous aime tant. Et puis il parle même d'offrande. Je vais juste signaler un point. Il dit qu'il ne faut plus. Jusqu'au troisième jour, il dit, il ne veut pas la tradition, il veut toujours du neuf, il veut la vie, la résurrection. Ces versets là dans Lévitique 19 résument bien la sainteté de Dieu. Neuf, quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu laisseras un coin de ton champ sans le moissonner et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner et à la fin du dix, tu abandonneras cela aux pauvres et à l'étranger. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Étonnant, il vient de parler de la sainteté, de la sanctification, quelque chose de si grand, élevé. Est-ce que Moïse se serait trompé de structure, comme souvent le font mes étudiants dans leurs copies? Mais ça, c'est la parole de Dieu et Dieu ne se trompe pas. La parole inspirée par Dieu. Ça m'a impressionné comme il semble changer de sujet. Et il termine le paragraphe en disant « Je suis l'Éternel, votre Dieu », ce qui veut dire qu'il est très sérieux. Cela montre encore un autre aspect du cœur de Dieu. Dieu, il désire que nous le servions avec sainteté. Ce qui m'a interpellé ici, c'est de voir que Dieu, il a aussi, en même temps, un cœur pour les pauvres. Il y a pas mal de passages dans l'Ancien Testament où les deux choses sont liées. Il me semble que c'est dans le psaume 68, 5 et 6. On n'a pas le temps pour lire tous ces versets. Les pauvres, il y a des personnes qui sont matériellement pauvres, qui sont dépourvues d'argent, de prospérité. Mais comme nous l'avons vu hier, des personnes sont aussi spirituellement pauvres, y compris des croyants. Le frère l'a très bien décrit. Il y a des chrétiens qui annoncent le salut de la perdition éternelle et sont elles-mêmes sous la condamnation. Autour de vous, chers frères et sœurs, vous avez beaucoup de pauvres qui ne jouissent pas de cette bénédiction de vivre dans une famille normale, par exemple. Même dans nos connaissances, parmi les connaissances, il y a des cas où le père ou la mère n'est plus présent. L'enfant, la fille, le fils est seul. Ça, c'est souvent le cas dans le monde. Il n'y a pas l'unité, manque de paix. Et nous avons été appelés de partager nos richesses et de faire la volonté du Seigneur.
Oh, Herr Jesus.
Et puis, le verset 18, le même chapitre, ça continue. Le deuxième verset qui est souvent cité dans le Nouveau Testament, je vais lire la deuxième partie de ce verset. Mais tout le verset, toute cette portion vaut la peine d'être étudiée, de faire des partages là-dessus. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. C'est l'Éternel qui aime. Lui, il est amour. En parlant de la sanctification et de sa nature œuvrée en nous. Qu'est-ce que c'est sa nature? Lui, il est amour, comme on le lit dans la parole. Dieu est amour. Il a un cœur pour les humains. La sanctification ne fera pas de nous des personnes qui diront systématiquement « Voilà ta faute, voilà où tu es encore déficitaire. » Non, Dieu, il est saint. Lui, il est saint. Notre Seigneur est saint. Et ceux qui avaient soif et faim de vie, de vérité, c'est eux qu'il a attirés. Et deuxième aspect de la sanctification, n'est pas un comportement extérieur. Lisez Marc 7, le verset est indiqué sur le résumé. Pour comprendre le cœur du Père, il faut regarder Jésus-Christ. Le Seigneur, il a rencontré un menteur. Prenons Jean 4. On a déjà vu, mais je veux faire ressortir un point. Lorsque le Seigneur lui a annoncé la bonne nouvelle, cette femme au verset 14-15 de Jean 4, la femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Et le Seigneur lui répond, 16, Jésus, il lui dit, va, appelle ton mari et viens ici. Et maintenant, ça me vient à l'esprit combien ça montre aussi le cœur du Seigneur, son intention d'annoncer la bonne nouvelle aussi au mari. Et la femme, elle répondit, je n'ai point de mari. Et puis vient une réponse du Seigneur qui m'a vraiment impressionnée. Moi, j'aurais pas donné cette raison. Mais elle a quand même vécu avec un homme. C'est pas par hasard que le Seigneur lui a dit « Appelle ton mari ». Il dit « Tu as eu raison ». Il dit pas « Tu as menti ». Elle dit pas « Tu es menteuse ». Non, il répond « Tu as raison de dire ». Quelle attitude, quelle sensibilité, dont le Seigneur fait preuve. Et en même temps, il lui dit la vérité en disant, car tu as eu 5 maris. Le Seigneur, il est la vérité, il révèle la vérité, mais vous voyez avec quelle attitude. Donc il dit, car tu as eu 5 maris, tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant, ce n'est pas ton mari. Vous voyez, le Seigneur, il distingue entre un mariage et une relation sans mariage. Et puis, il dit une deuxième fois, en cela, tu as dit vrai. Elle avait menti et il lui révèle qu'elle n'a pas fait la déclaration correcte quand même. Mais avec quelle attitude? L'attitude de notre Seigneur, celui qui est saint, qui est le véritable. Avec les pharisiens, par contre, ceux qui avaient seulement tellement insisté sur le comportement extérieur, il était fâché avec eux. Lisez Matthieu 23 et vous verrez sa colère et quelles paroles dures il a eues avec eux dans Matthieu 23, 31. Génération de vipères, il leur dit. Des serpents, il les traite de serpents. Le Seigneur, il haït l'hypocrisie. Mettre l'accent sur le comportement extérieur, cela entraîne forcément l'hypocrisie. Et le résultat, c'est la condamnation, manque de paix, manque de joie, manque de vie. Et malheureusement, parmi le peuple de Dieu, beaucoup de choses de ce genre se passent. C'est pour ça qu'on voit si peu de vie, si peu de joie. Mais si la sanctification n'est pas un comportement extérieur, est-ce que ça veut dire par contre que c'est la liberté complète et je peux faire n'importe quoi? Et là, j'apprécie un verset ou une portion dans Galates 5. Galates 5, 13 et 14.
Nur lass die Freiheit nicht zu einem Anlass für das Fleisch werden.
Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par amour serviteurs les uns des autres, car toute la loi est accomplie dans une seule parole. Et où est-ce que ça nous amène à Lévitique 3, 18 ? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de raison de vivre selon la chair. Nous avons été appelés à la liberté, mais ne pas à vivre dans la chair. C'est-à-dire, nous profitons de la liberté afin d'expérimenter la sanctification. Et pour rajouter un autre point pratique, c'est utile de mentionner aussi des aspects pratiques, quelque chose qui préoccupe souvent les croyants, c'est les vêtements. Et concernant les vêtements, il y a une loi qui est basée sur l'amour, servez-vous comme des esclaves par l'amour. Et cette loi est aussi très pratique, pas trop décontractée parmi nous, pas trop court. Même si le monde s'habille comme ça, c'est la mode. Pourquoi? Mais on n'a pas de loi. Oh ben, c'est une restriction pour cause de l'amour, pour pas révéler la chair. Pour ne pas faire ou créer une tentation, en particulier pour le sexe masculin, les frères. Ça peut gêner rapidement, facilement, la communion avec le Seigneur. Ce que pratiquent les gens du monde, c'est pas seulement pour la mode, parce qu'il fait si chaud. Il y a l'ennemi qui se cache derrière. C'est lui qui veut distraire les humains. Et les leurrer dans les impuretés. Pas trop décontracté. Mais ce que tu fais, fais-le par amour pour les autres. Demande au Seigneur, Seigneur, comment je vais m'habiller? Qu'est-ce que je dois mettre? Nous avons vraiment un chemin pour pouvoir avancer en liberté, mais aussi par amour. Ça nous réfère à 1 Thessaloniciens 4, 3. Notre sanctification, c'est de fuir la débauche, l'impureté, l'adultère. Le Seigneur le montre bien, ça commence par les pensées. Donc c'est sérieux c'est de d'éviter la débauche. La débauche, c'est aussi des rapports entre un homme et une femme sans être mariés. Et cela ne correspond pas à la nature de Dieu. Lui qui s'est lié contractuellement avec nous par le précieux sang de Jésus-Christ qui a fondé la nouvelle alliance. Et le Seigneur, il considère la relation entre un homme et une femme de la même façon. La sanctification est liée à l'amour. Maintenant, un troisième aspect concernant la sanctification. La sanctification est une séparation. Sur le résumé, j'ai mis 4 versets. Il y a aussi 2 Corinthiens 6. Ne vous mettez pas sous un joug étranger. Et 17 aussi, sortez du milieu d'eux. Également, chapitre 7, 3 m'a beaucoup interpellé. Là, Paul, il écrit,
chapitre 6,
Bon, la répartition en chapitres a été faite ultérieurement dans la parole. Au départ, c'était pas comme ça. C'était écrit d'affilée. Je ne dis pas cela pour vous condamner. Je vous ai déjà dit que vous êtes dans notre cœur pour vivre et mourir avec nous. En parlant de la sanctification, c'est avec un cœur de ne pas condamner les frères et sœurs. Il dit même qu'il les a sur son cœur jusqu'à la mort. Et pourtant, il a dit, qu'il faut achever la sanctification dans la crainte de Dieu. C'est donc très sérieux, parce que c'est un risque de perdre la communion avec Dieu. Et verset 2, donnez-nous une place. Comme il avait déjà dit au verset 11 au 13, c'est le passage concernant le joug étranger. Notre bouche s'est ouverte pour vous, Corinthiens, pour vous, frères et sœurs dans les églises. Notre cœur s'est élargi. Il adresse cette parole même aux Corinthiens qu'il avait critiqués, qui avait même osé dire qu'il décide selon la chair. Mais lui, il dit, notre cœur s'est élargi. Quel contraste en voyant l'attitude de certains frères qui critiquent volontiers. Rendez-nous l'appareil. Je vous parle comme à mes enfants, c'est-à-dire comme un père spirituel. Élargissez aussi votre cœur à notre égard. Ensuite, les versets qui suivent parlent de la sanctification. Jusqu'au 7, verset 1, et c'est essentiel pour la communion et les relations entre nous. Ne vous mettez pas sous un joug étranger. Un joug, c'est une connexion, un lien. Le problème, c'est l'effet que ça te fait. Tu deviens dépendant. Tu es sous l'influence de la nature de ce joug. Et je suis sûre que Paul, il pense au mariage avec des incrédules, des non-croyants. Ou également certaines activités. Moi, je suis pas contre les sports ou la musique, peu importe, mais dans des associations, tu peux investir tout ton temps, toute ta vie. Et moi, je me suis rendu compte de cela lorsque mes fils, qui ont aussi pratiqué des sports, ce qui principalement, en principe, c'est positif. Mais j'ai toujours évité d'être impliqué à un tel point d'être perdu là-dedans, que ça mène trop loin et que ça pose un risque pour ma communion avec le Seigneur et les frères et sœurs. Et puis il continue, quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quelle part ou partenariat en allemand? Nous sommes les interlocuteurs du Seigneur. Quelle part y a-t-il entre la justice et l'iniquité. Paul, il nous voit comme ceux qui sont devenus justice en Dieu, comme il a dit dans le chapitre avant, au 21. Quelle part y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Les personnes peuvent être bien extérieurement, mais dans les ténèbres, même si ça paraît juste extérieurement, tu connais pas leur cœur. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Et 16, quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Nous sommes le temple de Dieu, le temple de l'Esprit. Paul le dit à deux reprises dans 2 Corinthiens 1, 16 et 6, 19. Et encore d'autant plus en tant que l'Église. Quel accord y a-t-il entre nous et les idoles, entre ce monde et nous? Ce que j'ai pensé après le message d'hier soir, nous disposons d'un tel trésor, tant de joyaux, beaucoup d'aspects, le plus grand trésor qui existe. Est-ce que toi, tu stockerais ce trésor dans une poubelle? Jamais. Tu le perdrais rapidement. Voilà ce que Paul veut dire ici. Séparons-nous afin que rien ne puisse gêner la communion que nous avons. Elle est trop précieuse. La troisième partie, maintenant, comment est-ce qu'on peut obtenir la sanctification? Il est impossible en nous-mêmes, pas possible avec notre force à nous. C'est seulement possible en Christ. Le premier aspect de notre Seigneur, le Seigneur est le crucifié. L'expérience de sa croix, c'est pas une doctrine sur le Christ crucifié. Lui, le Christ crucifié, c'est notre chemin vers la sanctification. Il y a beaucoup d'aspects par rapport à la croix. Je vais résumer. Il y a un aspect qu'il faut absolument voir. C'est le Seigneur, il a tout accompli. Lui, il a passé par la croix, il a pardonné nos péchés. Et encore davantage, il nous a inclus dans sa mort. Colossiens 2, 11 à 13. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Ayant été enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscité en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Et chapitre 3, verset 3, verset qu'il faut retenir, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Merveilleux de voir qu'il parle au passé. Vous êtes morts. Vous avez été ensevelis ou circoncis. Le Seigneur, il nous a donné un traitement. À la fin du verset 13, de même que Christ vous a pardonné, Christ nous a déjà pardonné. Nous avons été crucifiés avec Christ, nous sommes morts avec Christ. Et ça, c'est une affaire de foi. Pas suffisant de l'admettre par la raison uniquement, parce que nous sommes toujours des personnes qui commettent des péchés. Trois saints, Paul dit aussi, faites donc mourir ce qui, dans vos membres, est terrestre, la débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité, qui est une idolâtrie. La cupidité, l'amour de l'argent, c'est aussi une idolâtrie. Il faut fuir toutes ces choses. Et y compris l'amour de l'argent. Et verset 8, maintenant renoncez à toutes ces choses, à la colère, l'animosité, la méchanceté, la calomnie. Parfois, on a envie de calomnier. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle. Paul, il montre que la mort du Seigneur est un fait accompli. Lui, il a déjà crucifié toutes ces choses, la débauche, les mauvaises pensées, la colère, la calomnie, de se sentir offensé, tout a été accompli, tout est crucifié, frères et sœurs. Dans le domaine de l'esprit, il n'y a pas de temps. Dans le domaine céleste, le domaine divin, le temps n'existe pas. Lui, il a déjà tout accompli. Nous pouvons tout simplement prendre, et cela demande notre coopération par la foi. J'ai dû confesser au Seigneur que je suis tellement sous l'influence des choses que je vois, que je sens. Mais le Seigneur lui-même, il est l'auteur de la foi. Il nous donne cette foi pour prendre, pour appliquer tout cela. Le deuxième aspect sur le chemin vers la sanctification, c'est le Christ ressuscité, le Christ vivant. Celui qui est devenu l'Esprit qui donne la vie. Il n'y a pas de différence entre le Seigneur et l'Esprit. Comme on fait la distinction dans la religion, c'est faux. Il y a une unité en amour entre le Père, le Fils et l'Esprit. Jean 16, 3 dit que l'Esprit ne parle pas de lui-même. Donc, en parlant de l'Esprit, nous parlons du Seigneur. Dans Éphésiens 5, le verset a déjà été cité, le début du verset. Éphésiens 5, 17. Il ne faut pas être insensé, mais il faut comprendre quelle est la volonté du Seigneur. Quelle est la volonté du Seigneur? Verset 18, au Éphésiens 5, 18. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Il ne dit pas qu'il ne faut pas boire du vin de tout. Paul dit même à conseil à Timothée d'en boire un peu, mais sans s'enivrer. Et on peut dire d'une manière générale, nous sommes en contact avec le monde extérieurement, nous n'en sommes pas séparés. Mais quoi que ce soit, une belle musique, un événement spécial, jamais en profiter en s'enivrant. Lorsque tu es enivré, tu n'as plus la possibilité de faire un jugement sobre et d'apprécier ce que nous avons, ce grand trésor. Nous connaissons cela, c'est notre expérience à nous tous. Le Seigneur, il est si positif. Soyez au contraire remplis en esprit. C'est pour l'édification de l'Église, pour être rempli du Seigneur qui veut remplir tout en tous. Comment être rempli en esprit? Dans le verset 19, Paul nous montre un chemin très simple. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Le chemin indiqué par Paul, c'est les réunions, la communion entre nous. Entretenez-vous, il dit, c'est important. Nous sommes si libres pour partager les richesses, et pas comme dans la religion, une seule personne, un pasteur, prend soin de tout. C'est un modèle que tu vois partout. Il y a quelques-uns qui s'occupent de tout. Et les autres sont séparés. Il n'y a pas de partage, pas de dispensation. Le résultat de la dispensation de ces richesses, c'est d'être rempli en esprit. Ça a été notre expérience si souvent. Parfois, j'arrive pas si rempli en esprit dans la réunion, mais ce que j'ai appris dans l'Église, c'est de commencer par la foi et grâce au partage des frères et sœurs, un cantique qu'ils proposent, ou lorsque tu parles, tu lis un psaume ou un quelques versets, ça peut faire beaucoup de choses, ça peut mener à la résurrection. Et puis le troisième aspect, la communion avec le Christ ressuscité dans la prière. Communion dans la prière. Éphésiens, ou lisons plutôt Luc 21, 36. C'est une parole du Seigneur lui-même. Luc 21, 36. Veillez donc et priez en tout temps afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Veillez donc et priez en tout temps. Veillez en priant. C'est ce que dit le texte en grec. En tout temps. Et cela, évidemment, c'est pour nous préparer à l'arrivée du Seigneur. Et puis le Seigneur, il dit aussi, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses, ces événements de la fin des temps qui exercent tant de pression sur nous, toute la technologie, les portables que nous utilisons à profit, mais l'ennemi aussi s'en sert, donc restons prudents. Tu es sur Internet et du coup, tu vois quelque chose qu'on t'affiche sur un produit que tu avais recherché parce que tu voulais l'acheter à un moment donné. C'est vraiment des astuces. Mais il y a une possibilité de rester. Il faut rester en communion constante avec le Seigneur. C'est pas une tradition ni une pratique. C'est indispensable et c'est vital de rester en communion avec le Seigneur. Le Seigneur, il parle de la prière et le Seigneur, il a besoin de notre prière. Une prière constante. Il y aura encore une réunion au sujet de la prière. La prière est si importante. Et le Seigneur, il dit en tout temps, priez en tout temps. Une heure et demie, le mardi ou mercredi soir ou un autre jour, c'est pas suffisant. Je regrette si vous n'avez pas une vie de prière régulière. Comment la réunion de prière peut-elle être efficace? La prière, c'est en premier lieu une communion par la foi. Le Seigneur, il a vraiment un grand cœur pour les humains, les hommes perdus. J'aurais pu citer d'autres versets comme Jacques. Jacques qui dit que si tu vois qu'un frère est en train d'être perdu et tu le ramènes, Jude pareil, ça montre le cœur du Seigneur pour les personnes dans le monde, aussi pour les frères et sœurs pauvres qui sont peut-être engagés sur un mauvais chemin. Cette vie de prière, aussi le temps passé dans la réunion pour recevoir la vie, le temps passé en prière, que ce soit la prière individuelle ou dans la réunion de prière, selon la volonté du Père, cela nous sépare. Et les fardeaux pour les frères et sœurs, qui reflétaient dans les versets que nous venons de lire, cela aide à promouvoir notre vie de prière. Il y a un grand bénéfice rattaché à cela, que le Seigneur ouvre nos yeux pour voir quelle est la véritable sanctification, ce que ça signifie d'expérimenter la croix. Cela se passe par la foi du Seigneur, la foi que le Seigneur œuvre en nous par la communion avec lui, par sa parole. Nous avons besoin de la foi pour être remplis en esprit et ne plus prier à notre manière naturelle. Le Seigneur, il est si sage, sa sagesse est sans limite pour le contempler, lui, et pour ramener sur la terre les choses qui sont déjà accomplies au ciel. Quelle grâce de pouvoir participer à cela, frères et sœurs. Amen.
Ich möchte gerne davon sprechen, was der Herr mir heute Morgen durch die Botschaft, nein, dass der Herr mir heute Morgen durch die Botschaft ein paar Fragen beantwortet hat.